Malgré tous les signes qu'il avait produits devant eux, ils ne mettaient pas leur foi en lui. De sorte que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe, qui a dit « Seigneur, qui a cru ce qu'il nous a entendu dire ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» S'ils ne pouvaient pas croire, c'est qu'Ésaïe a encore dit « Il a rendu leurs yeux aveugles et leur cœur obtus, pour qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur et qu'ils ne fassent pas demi-tour. Je les aurai guéris. » C'est ce qu'a dit Ésaïe parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup mirent leur foi en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le reconnaissaient pas publiquement, pour ne pas être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria, « Celui qui met sa foi en moi, ce n'est pas en moi qu'il met sa foi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. » Pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a bien un juge. C'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. Car moi, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. C'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a donné lui-même un commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi, ce dont moi je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit.
L'une des affaires judiciaires les plus célèbres de ces dernières décennies en France, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'affaire Cézenec, une affaire qui a duré en fait des décennies. Alors, Guillaume Cézenec a été accusé en 1924 d'avoir tué son associé Pierre Kemener, qui a disparu alors que les deux revenaient ensemble d'un voyage d'affaires. Alors Cézenec dit avoir déposé son associé bien vivant à la gare de Dreux, mais en fait on ne l'a jamais revu, on n'a jamais revu Pierre Kemener. Et malgré l'absence de preuves formelles, la suspicion s'est vite portée sur Cézenec. Il sera condamné aux travaux forcés pour l'assassinat de son associé et transféré à un bagne en Guyane. Il sera libéré 20 ans plus tard, dans le cadre d'une remise de peine, mais sa condamnation n'a jamais été révisée. Cézenec n'a cessé de clamer son innocence. Alors, il est mort dans les années 50, mais dans les décennies qui ont suivi, c'est sa famille qui a pris le relais, qui a continué à tout faire pour que son jugement, même à titre posthume, soit révisé. En 2006 encore, la Cour de cassation s'est penchée une dernière fois sur cette affaire. Je rappelle que c'est en 1924 que le crime, s'il y en a eu un, a été commis. Donc 2006, la Cour de cassation se penche une dernière fois sur cette affaire. Ça a fait pas mal de bruit dans les médias, en particulier en raison de la mobilisation de Denis Cézenec, petit-fils de l'accusé, qui a dit que la réhabilitation de son grand-père, c'était l'affaire de sa vie, c'était le but de sa vie. L'avocat général qui représente l'État et qui, en général, plaide plutôt dans le sens de l'accusation, a requis l'acquittement de Cézenec. Et donc, tout le monde s'attend à ce moment-là à ce qu'il soit suivi par la Cour. Mais surprise, en décembre 2006, la Cour de cassation confirme une nouvelle fois la condamnation de Guillaume Cézenec. Sur le fond, je ne sais pas, j'ai aucune idée si Cézenec était innocent ou non. Ce qui est sûr, c'est que sa famille a passé des décennies à constituer ce dossier, à plaider en sa faveur. Mais en définitive, ça n'a pas changé le verdict. On arrive à la fin du chapitre 12 de l'évangile de Jean. Et en fait, c'est un tournant de ce quatrième évangile. À partir du chapitre 13, on va changer de registre. On va voir les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Peu avant, donc quelques heures seulement avant sa crucifixion. Mais là, on se trouve donc à la fin du chapitre 12 et c'est comme si Jean avait fini de monter le dossier, de constituer le dossier par lequel il plaide pour Jésus. Un dossier fait de signes, c'est un mot-clé dans cet évangile, un mot qui revient à de nombreuses reprises, des signes qui révèlent qui est Jésus. Il y a donc pour Jean une accumulation d'indices et même des preuves qui attestent que Jésus est bien le Messie d'Israël, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Et pourtant, ce dossier ne va pas convaincre la majorité des contemporains de Jésus et des contemporains de Jean quelques décennies plus tard. Et ce soir, j'aimerais que chacun prenne conscience qu'il doit prendre position face à ces signes que Jésus a donnés de lui-même, face à ce dossier que cet évangile, et puis tout le reste du Nouveau Testament, nous donne à propos de Jésus. Et je voudrais essayer de montrer que cette décision que chacun prend et que chacun doit prendre envers Jésus-Christ comporte un enjeu immense. Et ce sont des thèmes qu'on a déjà vus pour partie dans cet évangile, parce que justement ici, Jean en quelque sorte conclut son dossier et revient sur certaines choses qu'il a déjà montrées. Et je vais vous poser ce soir trois questions pour bien cerner le texte et ce qu'il implique pour nous. Qui est Jésus ? Que vaut Jésus ? Et où vas-tu ? Première question donc, qui est Jésus ? On arrive donc, comme je l'ai dit, à la fin du chapitre 12, un tournant de cet évangile. Et le texte de ce soir tire un bilan donc de la réaction des Israélites, en premier lieu, aux 7 signes que Jésus a donnés de son identité et son autorité. On note au passage que le chiffre 7 dans la Bible symbolise régulièrement la complétude, ce qui est complet, ce qui est achevé. Et ce n'est pas pour rien donc que Jean sélectionne ses miracles. Jésus en a accompli bien d'autres, Jean d'ailleurs le dira, mais sélectionne ses miracles et nous en donne 7 pour nous montrer qui est Jésus. Et c'est 7 signes que, au cours de cette série qu'on a fait en deux fois plusieurs mois, on les a vus ensemble. Jésus change l'eau en vin. Jésus guérit le fils de l'officier royal. Jésus guérit un homme paralytique. Il nourrit la foule. Il marche sur l'eau. Il guérit un homme aveugle de naissance. Il ramène Lazare à la vie. Je l'ai dit, Jésus a accompli bien d'autres miracles. Mais voilà l'échantillon que Jean sélectionne. Parce que pour lui, et ces miracles, il les appelle des signes, parce que pour lui, le but premier de ces miracles, c'est de révéler qui est Jésus. Et dans le texte de ce soir, donc, Jean termine sa plaidoirie en quelque sorte. Il dit, vous voulez savoir qui est Jésus ? Eh bien voilà, considérez ces signes et prenez position. Voilà le dossier que j'ai constitué pour vous, que Jésus, en fait, que le Père et le Fils ont constitué, mais que Jean nous recense ici. Or, quelle est la réaction de ceux qui ont écouté Jésus, de ceux qui ont assisté à ces miracles ? Eh bien, le texte nous le dit, verset 37, « Malgré tous les signes qu'il avait produits devant eux, ils ne mettaient pas leur foi en lui. » C'est la réaction globale. Il y a bien sûr des gens qui ont mis leur foi en Jésus, on l'a vu, on le voit encore ce soir. Mais globalement, ils ne mettaient pas leur foi en lui. Et il faut reconnaître que dans un sens, si on se focalise sur les effets visibles du ministère public de Jésus pendant ces environ 3 ans sans doute où il a parcouru le pays d'Israël pour proclamer la bonne nouvelle et pour révéler qui il est et pourquoi le Père l'a envoyé, si on regarde juste les effets visibles, on pourrait conclure à une sorte de fiasco total. On voit des foules qui, au départ, suivent Jésus volontiers, qui sont plutôt sympathisantes de son message, mais qui petit à petit vont se détourner de lui, et de plus en plus. On voit que les actes miraculeux que Jésus accomplit, eh bien, même ces actes qui le révèlent, en fait, vont être utilisés comme des arguments contre lui, comme des arguments pour ceux qui l'accusent. Et puis, bien sûr, Jésus, on le sait et on le verra, a au final été condamné par un tribunal religieux juif et puis ensuite par un gouverneur romain et sera exécuté publiquement. Et on pourrait regarder ça et se dire, mais quel fiasco, tu parles d'un messie. Mais Jean veut que nous, lecteurs, comprenions bien ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'il fait au début du texte de ce soir, qui n'est pas évident. Il rappelle que ce n'est pas la première fois que le peuple d'Israël rejette son Dieu et la délivrance que Dieu offre. Déjà à l'époque des prophètes de l'Ancien Testament, une grande partie du peuple rejetait cet appel de Dieu qui lui était lancé et ce salut qui lui était offert. Et c'est ce qu'on lit au verset 38 et 40, où Jean cite par deux fois le prophète Ésaïe, d'abord au chapitre 53 et ensuite au chapitre 6. Et dans ces textes anciens, on voit qu'Ésaïe proclame de la part de Dieu un message de délivrance. Mais en fait, plus le peuple entend ce message, plus il le rejette. Et Jean, en montrant cela, va faire un parallèle, bien sûr, avec le ministère de Jésus, on va le voir. Et il veut même nous faire comprendre ce qu'il dira explicitement à la fin du texte, c'est-à-dire que le même message qui a le pouvoir d'apporter la délivrance à ceux qui le reçoivent, à ceux qui le saisissent, ce message qui libère et qui sauve, eh bien pour ceux qui s'endurcissent contre ce message et qui s'obstinent à le rejeter, finalement, ce message sera retenu comme un élément à charge contre eux. Je vais m'expliquer et je vais d'abord le faire par une petite illustration. Imaginons qu'un homme ou une femme a de gros problèmes avec l'alcool et conduit régulièrement sous l'emprise de l'alcool. Et des membres de sa famille interviennent alors pour lui dire « c'est plus possible, tu mets ta vie en danger et puis la vie des autres également, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Écoute, on va s'occuper de toi. On t'a trouvé une place pour une cure de désintoxication et puis on ne va pas te lâcher comme ça, on va vraiment passer plus de temps avec toi et on va t'aider à retrouver le goût de la vie pour que tu n'aies plus ce réflexe de te réfugier vers l'abus d'alcool. Parce que là, c'est plus possible, ça ne peut plus continuer comme ça. Et imaginons que cette personne refuse cette intervention. Et puis la famille revient à la charge plusieurs fois et la personne refuse encore et encore. Et plus on lui propose, plus elle refuse de façon obstinée, plus elle s'endurcit. Eh bien, en fait, on peut dire dans un sens que cette intervention familiale, ces interventions familiales, qui auraient dû être des moyens de délivrance, vont devenir des circonstances aggravantes pour cette personne. Parce que non seulement elle continue à agir mal. Imaginons par exemple que quelques semaines plus tard, elles sont impliquées dans un accident très grave. Et bien, à ce moment-là, on dira, mais c'est doublement grave parce que cette personne a ce problème et n'a pas su se maîtriser. Mais en plus, il y avait plusieurs propositions de délivrance qui ont été faites et à chaque fois, elles ont été rejetées. Donc, ce qui aurait dû être un moyen de délivrance devient un élément à charge. En disant cela, je ne prends pas du tout à la légère le problème bien réel de l'alcoolisme. Et surtout, si certains ici luttent avec cela, surtout pas donner l'idée que c'est facile et qu'il suffit d'en prendre conscience et que tout va bien. Mais je veux donner cette image pour montrer ce qui se passe lorsqu'on s'endurcit contre une proposition d'aide. C'est un peu cette idée qu'on retrouve au verset 40. Le message que proclamait Ésaïe est devenu une source d'endurcissement pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu et du salut qu'il offre. Et ce texte souligne aussi, et ça c'est difficile à entendre et difficile à comprendre, souligne aussi que Dieu est souverain sur la réaction de chacun face à son message. Et Jean, en citant Ésaïe, peut dire « Il a rendu leurs yeux aveugles et leur cœur obtus ». Il y a là quelque chose qui est mystérieux pour nous, il faut le reconnaître. Il me semble qu'on peut comprendre la chose ainsi, en tout cas. Dieu a voulu en quelque sorte que ce message de salut soit comme un révélateur de la condition spirituelle de chacun. Les uns le reçoivent avec joie, les autres s'endurcissent. Et tout cela se passe selon le plan de Dieu. Et en fait, on retrouve le même phénomène à l'œuvre devant la proclamation de Jésus, le message de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus divise, les uns la saisissent, les autres s'endurcissent. Et Dieu est souverain sur cela. Et d'ailleurs, on voit la souveraineté de Dieu à l'œuvre lorsque ce rejet de Jésus va mener jusqu'à la croix et que Dieu va utiliser la croix. Paradoxalement, ce qui est le paroxysme du rejet de Jésus, eh bien Dieu va utiliser cela pour sauver les hommes. Il utilise cela pour notre bien et pour notre délivrance. Et on a vu ça les deux dernières semaines en particulier. Mais je reviens à notre question de départ. Et si vous êtes ici ce soir et que vous n'êtes pas encore sûr de vos convictions à propos de Dieu, il vous faut, et j'espère que vous le ferez ce soir, il vous faut vous poser cette question. Qui est Jésus? Et comme je le montrerai tout à l'heure, en fait, on doit tous se poser régulièrement cette question. Si Jésus n'est qu'un sage, un grand homme du passé, alors cette bonne nouvelle que nous annonçons dimanche après dimanche, finalement, c'est une façon de voir la vie. qui correspond à nos valeurs, à nos affinités ici dans cette église, mais peut-être pas aux vôtres. Chacun, à chacun de partager ce qui représente ses valeurs. Et je ne suis évidemment pas contre, nous ne sommes pas contre le dialogue, le partage. Mais si Jésus est celui qui détient le sens de la vie de chacun, si croire en lui, en fait, c'est saisir cette vie pour laquelle nous avons été créés par notre Créateur, et si croire en lui, c'est être sauvé d'une véritable perdition, alors ce message que Jésus a révélé, il est essentiel pour tous, et personne ne peut prétendre qu'il n'est pas concerné. Mais cette question, qui est Jésus, nous qui sommes chrétiens, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, nous devons aussi nous la reposer régulièrement. Parce que si nous croyons que Jésus est véritablement le Seigneur de notre vie, celui qui a toute autorité sur notre vie, si nous croyons vraiment que sans lui, nous serions perdus et que toute notre espérance repose en lui, eh bien ça implique pour nous une vie radicalement nouvelle et que bien souvent on a du mal à vivre, il faut le reconnaître. Et ça nous amène à la deuxième question que je voudrais poser. Que vaut Jésus ? J'avais 17 ans, j'étais en cours de philo, en terminale. Et à 17 ans, en fait, j'avais compris et cru l'évangile pas longtemps auparavant. C'était à l'âge de 16 ans que vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai compris plus tard et que je continue d'apprendre. Hein. Mais c'est à 16 ans que vraiment j'ai saisi ce que Jésus avait fait pour moi à la croix. Et donc, on était là peu de temps après. Et un jour, je pense, sur la base de l'une ou l'autre remarque que j'avais pu faire en cours, la prof est venue discuter un peu avec moi à la fin du cours et très gentiment, d'ailleurs très respectueusement, m'a demandé « Vous êtes chrétien ?» Et j'ai dit « Oui, je suis protestant, chrétien protestant. » Et là, je ne sais pas, je sais pourquoi, mais là j'ai ajouté, stupidement, « Enfin bon, je crois, hein, mais je ne suis pas vraiment pratiquant. » Alors c'était n'importe quoi, hein. J'allais à l'église tous les dimanches, j'allais au groupe de jeunes. J'aimerais pouvoir vous dire qu'en disant « je ne suis pas très pratiquant », ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait trop d'écart entre ma foi et ma façon de vivre, ce qui aurait été vrai. Ce n'est pas ça que je voulais dire, malheureusement. Je pense que, voilà, un peu intimidé par cette prof, je ne voulais pas apparaître trop zélé pour ma foi. Et je voulais donner l'impression d'être intellectuellement concerné par ces questions, mais pas trop engagé à titre personnel. Assez croyant pour que ça soit intriguant, mais pas assez croyant pour que ça soit dérangeant. Alors aujourd'hui, c'est grillé pour moi, il suffit que je dise ce que je fais dans la vie, et là, j'ai du mal à passer incognito. Mais il m'arrive quand même de me retrouver dans des situations où j'ai envie de surtout ne pas faire de vagues, parce que je crains l'image que quelqu'un pourrait avoir de moi si j'affichais trop fort ma conviction que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et pas seulement un chemin parmi bien d'autres. Ou si j'affirme que je crois que la Bible fait autorité non seulement sur ma vie, mais aussi sur la vie de chacun. Des choses difficiles à entendre dans notre culture aujourd'hui. Et bien, dans notre texte, on voit qu'il y avait pas mal de personnes qui, en fait, avaient cru en Jésus, mais n'osaient pas le reconnaître publiquement. Jean ne dit pas que ce ne sont pas de vrais chrétiens, mais il souligne leur manque de courage. Verset 42, « Ils ne le reconnaissaient pas publiquement pour ne pas être exclus de la synagogue. » Et il faut reconnaître que la conséquence était plus grave que celle que généralement aujourd'hui auxquelles nous pouvons faire face aujourd'hui. Ce n'était pas simplement être mal vu, être exclu de la synagogue, c'était être exclu de la communauté. Malgré cela, la conclusion de Jean, verset 43, est sans appel. Ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire de Dieu. Autrement dit, le plus important pour eux, c'était d'être admirés publiquement par les hommes plutôt que d'admirer publiquement Dieu. Et je voudrais m'adresser ici en premier lieu aux chrétiens parmi nous. En fait, c'est assez facile aujourd'hui d'être chrétien incognito. On peut même être assez engagé, actif dans son église, mais ne jamais dévoiler sa foi partout ailleurs. Faire soigneusement attention, par exemple, que notre cercle d'amis de l'église et des autres amis ne se rencontre surtout jamais. Ou quand on nous demande « qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Surtout, dimanche soir, il y a un petit flou, un petit vague, on n'en parle pas vraiment. Alors moi, c'est pareil, c'est grillé, mais... C'est une tentation et on fait face à ce genre parfois de tentation. Et mon propos en disant cela n'est pas de culpabiliser tous les chrétiens ici en vous demandant « Est-ce que vous avez parlé de votre foi cette semaine explicitement à telle ou telle personne ?» Mon propos, c'est plutôt de vous encourager, de nous encourager, je m'inclus pleinement, à être réellement nous-mêmes avec nos amis, avec nos collègues, avec les membres de notre famille qui ne partagent pas notre foi. Et dans un sens, si on est vraiment nous-mêmes, ça sera vite vu. Parce que si c'est très facile de ne pas parler de notre foi, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est quelque chose qui est un peu à la marge de notre vie, eh bien, ça pose la question de l'authenticité de notre foi. Mais si Jésus est véritablement le maître de notre vie et son centre de gravité, alors en étant nous-mêmes, eh bien, on sera forcément amené à parler de lui et à vivre d'une manière qui reflète sa présence et sa puissance dans notre vie. Et tout en respectant pleinement les convictions de chacun et les convictions de notre prochain, de nos interlocuteurs, si nous sommes intimement convaincus qu'ils ont besoin de Jésus-Christ tout autant que nous, eh bien, ça va changer forcément notre manière d'être avec eux. On aura d'autant plus à cœur de leur montrer Jésus par nos paroles, par nos actes. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains : « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Et en fait, la question clé pour nous chrétiens en particulier, c'est : que vaut Jésus pour nous ? Qu'est-ce qu'il vaut dans l'absolu ? Si nous le comprenons, ça sera décisif. Est-ce qu'il est si essentiel à ma vie que je suis prêt à être parfois critiqué, déconsidéré, mal vu, parce que je refuse de compromettre mon engagement pour lui ? Jean montre au verset 43 que, en fait, le véritable problème lorsqu'on met notre foi régulièrement en veilleuse, c'est un problème d'amour. Nous n'aimons peut-être pas tant que ça Jésus, si nous préférons renoncer à l'honorer plutôt que de renoncer à nous honorer nous-mêmes ou à être honorés nous-mêmes. Imaginez que vous avez quelqu'un que vous considérez comme un ami cher, mais vous avez un peu honte de lui, vous ne voulez pas trop parler de lui. Dès qu'il est question de lui, je ne le connais pas si bien que ça, etc. Ça met quand même, ça souligne une interrogation sur la réalité de votre amour pour lui. Alors que vaut Jésus pour moi ? Je vous encourage à réfléchir à cette question cette semaine. Et j'en arrive au troisième et dernier point. Où vas-tu ? Je vais encore parler de ma scolarité, c'est une obsession ce soir, je ne sais pas pourquoi. À l'époque ancienne, au siècle dernier, où j'étais au collège et au lycée, Internet existait à peine en France. Alors aujourd'hui, je sais que voilà, on peut trouver par un moteur de recherche une quantité incroyable de fiches de lecture, d'exposés, d'exercices corrigés sur tel ou tel thème. Je sais qu'il y a des profs parmi nous qui, sans doute, luttent régulièrement avec ça. Si on n'a pas envie de lire Madame Bovary, on peut trouver très facilement un résumé de Madame Bovary. Dans le cas improbable où il y aurait un jour un sujet de bac sur les chapitres 1 à 12 de l'Évangile de Jean, si seulement, il y aurait beaucoup de choses à dire, si seulement, un élève pourrait peut-être faire illusion en lisant juste les versets 44 à 50 de notre texte. Jésus y donne il fait une sorte de résumé de ce que nous montrent les 12 premiers chapitres. Mais bien sûr, c'est dommage de lire que cela et de ne pas lire tout le reste. Jésus affirme qu'il a été envoyé par Dieu son Père pour le révéler. Il nous dit que mettre sa foi en lui, en fait, c'est mettre sa foi en Dieu. Il nous dit que le rejeter lui, c'est le rejeter Dieu. Et il rappelle que l'enjeu est incontournable, verset 46. « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Autrement dit, sans Jésus, il ne reste que les ténèbres. Et Jésus va plus loin encore. La bonne nouvelle qu'il est venu révéler, elle a la puissance de délivrer l'homme des ténèbres qui sont le résultat de notre péché, de notre séparation d'avec Dieu. Mais comme on l'a vu déjà, si on rejette cette bonne nouvelle, cette offre que Dieu nous fait, eh bien, elle sera retenue contre nous au jour où notre Créateur rendra le verdict final sur notre vie. Pas facile à dire, mais je crois que c'est ce que dit le texte. En disant cela, je devrais trembler, parce que ça veut dire que si vous êtes venu à la RDS, et c'est le cas puisque vous êtes là, et que vous avez entendu la bonne nouvelle que Dieu annonce dans sa parole, je ne parle pas de ma prédication, mais de ce que dit Jésus, eh bien un jour, si vous n'avez pas saisi cette offre que Jésus vous adresse, ce soir entre autres, Dieu vous demandera pourquoi. vous n'avez pas saisi. Et ce texte dit même que ce message de salut, l'évangile, sera retenu contre vous. Je crois que c'est ce que dit le verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors, jusque-là tout va bien et on aimerait bien s'arrêter là, mais Jésus poursuit, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a bien un juge, c'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. Et si vous êtes là ce soir et que vous avez entendu ce texte biblique, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu l'appel de Dieu. Et c'est le message central de ces 12 premiers chapitres. Qui est Jésus ? Que vaut Jésus ? Et la réponse que chacun apporte à ces deux questions, en fait, détermine la troisième. Où vas-tu ? Quelle est l'orientation que prend ta vie ? Et si vous n'êtes pas chrétien, il va falloir que vous preniez position. Parce que l'évangile de Jean, comme le reste de la Bible, nous montre qu'on ne peut pas rester neutre face à ce que Dieu révèle. On ne peut pas simplement rester spectateur. Et bien sûr, notre prière dans cette église, c'est que vous puissiez saisir cette bonne nouvelle qui change la vie. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, cette question « Où vas-tu ?» elle est aussi bonne à entendre régulièrement. Pour vérifier qu'on n'est pas en train de dire « je veux suivre Jésus », mais en fait, tous nos actes et nos pensées tendent à montrer qu'on va en sens inverse. Or, l'enjeu, Jésus nous le rappelle au verset 50, c'est la vie éternelle. Et ce verset est saisissant parce que Jésus nous parle d'un commandement que le Père lui a donné. J'ai dû un peu relire plusieurs fois ce verset qui m'a surpris au départ. Je ne l'avais pas vraiment lu comme ça auparavant. Mais pourtant, il est très clair. Verset 49, « Il, le Père, m'a donné lui-même un commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler. » Alors, qu'est-ce que le Père a commandé au Fils ? Eh bien, Jésus répond au verset 50, avec une formule très raccourcie, très ramassée, mais très forte. « Ce commandement est vie éternelle. » En d'autres termes, le Père a dit au Fils, « Mon Fils, je veux que tu donnes aux hommes la vie véritable. » La vie éternelle. Et le Fils a obéi à ce commandement jusqu'à la croix. Et le chemin que nous sommes appelés à emprunter pour le suivre, ce n'est pas le chemin des honneurs de ce monde. Ce n'est pas le chemin à prendre si ce qu'on cherche, c'est la gloire des hommes. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie. Je vais prier. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui, en Jésus-Christ, ton Fils, nous a adressé les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons nous assurer, Père, que ces paroles, nous les avons saisies, que si ce n'est pas le cas, nous les saisissons maintenant. Je vais te prier pour que s'il y en a parmi nous ce soir qui n'ont pas encore saisi cette bonne nouvelle, eh bien que tu puisses vraiment ouvrir leurs yeux sur ce que tu as révélé en Jésus-Christ. Et qu'ils puissent saisir cette vie véritable que tu offres. Et quant à nous qui l'avons déjà saisie, tu vois que bien souvent, notre vie est en porte-à-faux avec ce que nous croyons et ce que nous affirmons. Pardonne-nous, Père, comme nous l'avons déjà demandé ce soir. Et remets-nous sur le droit chemin. Et nous savons que nous pouvons compter sur ta grâce, parce que tu es un Dieu qui nous sauve, non pas en vertu de nos propres efforts, mais en vertu du don de la vie de Jésus-Christ. Et de sa parfaite justice qui nous a été attribuée alors que nous étions nous-mêmes, par nos propres forces, des injustes devant toi. Merci Père pour cette grâce, pour cette bonté, pour cet amour. Au nom de Jésus.